Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Hey, bonjour à tous, vous êtes sur le Francophone avec Yann Agemaud. Aujourd'hui, on a un épisode extrêmement intéressant. C'est la première fois, je pense, que les quatre membres officiels du Francophone vont être sur le même podcast en même temps. Donc, pour faire une suite à l'étude de Recovery qui parlait de la dexamétasone en COVID, on a décidé de vous parler de tout ce qui vient de sortir récemment dans le JAMA au niveau de la cortisone et du COVID. Donc, un reminder qu'on fait tout le temps. Naturellement, aujourd'hui, on est le 9 septembre, donc tout ce qu'on dit peut être sujet à changer dans les prochains jours. Toutes les statistiques et les traitements qu'on dit peuvent se modifier là, au gré des nouvelles études. Mais pour l'instant, en date du 9 septembre, voici ce que l'équipe du Francophone nous a préparé. Donc, présentement, au niveau mondial, il y a plus de 27 600 000 cas, il y a eu 18 565 000 guérisons et il y a eu tout près de 900 000 décès, donc 898 000 décès. Au Canada, on est à 134 000 cas, 117 000 guérisons et 9 000 décès. Et plus particulièrement au Québec, on est la province la plus touchée avec 64 000 cas, 56 000 guérisons et 5 771 décès en date de hier. Donc, tous les articles qu'on va discuter avec vous vont être dans les notes de la balado, comme à l'habitude. Et une statistique intéressante que je veux qu'on garde en tête pendant tout le long de notre balado, c'est le taux de mortalité qu'on a pu voir dans la littérature au niveau des pays développés chez les patients ventilés mécaniquement. Alors, la littérature nous montre qu'il y a eu entre 54 et 88 % de mortalité, donc ce qui est quand même significativement très élevé. Je reviendrai pas sur l'étude de Recovery. Moi et Ariane, on avait fait un excellent balado là-dessus et je pense que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le réécouter. Ça pourrait être une bonne base au niveau de la première écoute avant d'écouter le balado en cours. Donc, l'étude Recovery, ce qui nous avait montré, c'est qu'il y avait eu un risque absolu de décès de diminuer de 12 % chez les patients ventilés. Donc, globalement, un tiers de moins de décès. Et chez les patients qui nécessitaient de l'oxygène, de tout acabit, il y avait un cinquième de moins de mortalité. Et sur une étude, il y avait plus de 6 000 patients. Donc, ça a été quand même ce qu'on appelle communément un game changer. Et vous allez voir au cours des études qu'on va vous parler aujourd'hui, l'étude Recovery revient tout le temps. L'historique de la cortisone, ça fait plus de 40 ans que ça dure là, au niveau des soins intensifs. La cortisone, ça a toujours fait jaser. Ça a eu des bons, des mauvais côtés. Et ça a atteint un creux, si on veut, en 2014, où est-ce qu'on s'est rendu compte avec une étude sur la RDS et la cortisone qu'il y avait seulement 18 % des médecins qui utilisaient la cortisone en ARDS. Heureusement, depuis 2014, trois études comme l'étude Adrenal, DEXA, ARDS ou Approaches est venue redonner un peu les lettres de noblesse à la cortisone. En mars 2020, le Survivis Sepsis Campaign, fidèle à son habitude de retard dans à peu près tout ce qu'ils peuvent faire, est venu donner une recommandation faible au niveau de l'utilisation de la cortisone en COVID. Bon, naturellement, les études n'avaient pas sorti, le fait que je leur laisse pour une fois le bénéfice du doute, là, d'avoir été un peu en retard, mais globalement, c'est une recommandation faible. Donc, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'études qui ont sorti, dont une méta-analyse, mais avant de parler de la méta-analyse, je voudrais dire bonjour à tout le monde, donc Mathieu, que vous connaissez bien. Allô Mathieu, ça va bien?
Salut Yann, salut tout le monde.
Alors Ariane est avec nous aussi, celle avec qui j'ai fait le podcast sur la dexamétasone recovery. Bonjour Ariane, ça va bien?
Salut tout le monde, oui ça va.
Cool, parfait. Et on a Francis qui est avec qui on a fait un des podcasts sur le talk, la discussion au café, sur les discussions un peu philosophiques. Il fait pas beaucoup de podcasts avec nous, mais quand on l'a, on est chanceux. Il apporte toujours des bons points intéressants et pertinents. Salut Francis, tu vas bien?
Salut tout le monde, oui, ça va bien.
Parfait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une méta-analyse qui vient de sortir dans le JAMA et cette méta-analyse-là est venue un peu solidifier l'étude Recovery dont on a parlé dans un podcast précédent. Donc, globalement, ce que cette méta-analyse-là est venue faire, c'est qu'il est venu poser la question, est-ce que les corticostéroïdes systémiques vont être associés avec une diminution de mortalité, toutes causes confondues, à 28 jours chez les patients qui ont nécessité des soins critiques aux soins intensifs, donc intubation, oxygène, et support de vasopresseurs. Donc, globalement, il y a eu 7 études randomisées contrôlées qui ont été pris en charge et en compte pour faire cette méta-analyse-là. Donc, on a l'étude DEXA-COVID, on a l'étude CODEX, l'étude RECOVERY, comme j'ai dit qu'on a déjà parlé, l'étude CAPE, l'étude COVID-STÉROÏDE, l'étude REMAP-CAP et l'étude STÉROÏDE-SARI. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne parlera pas de toutes ces études-là, ça serait beaucoup trop long. Donc, on va faire un petit résumé de la méta-analyse, puis à mes collègues, n'ayez pas peur d'embarquer pour venir ajouter votre grain de sel. Je sais que vous avez lu plusieurs de ces études-là. Donc, globalement, il y a eu 1700 patients, 1703 patients dans 12 pays et 5 continents. Globalement, c'était des patients qui étaient aux alentours d'une soixantaine d'années, 30 % de femmes avec des IMC un peu plus élevés que la normale. Et on a comparé le groupe cortisone, donc toutes les cortisones, la dexamétasone, l'hydrocortisone, la méthylprednisolone, à la hauteur de 678 patients versus les soins standards ou les soins placebo à la hauteur de 1025 patients. Puis comme je l'ai dit, bien, le premier outcome, c'était toutes les causes de mortalité confondues. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres, ils sont quand même assez impressionnants et ils vont un peu dans la suite de recovery. Donc, pour le groupe cortisone, il y a eu 222 patients qui sont décédés sur les 678. Alors que dans le placebo, c'était 425 pour 1025 patients au total. Ce qui nous donne un odd ratio sommaire total de 0,66, qui est quand même assez significatif. Et lorsqu'on décline un peu ces odd ratios-là, selon les types de cortisone, donc au niveau de la dexamétasone, c'est 0,64 de odd ratio en faveur de la cortisone, 0,69 pour l'hydrocortisone, et au niveau du méthylprednisolone, le solimédra, lui, est un peu plus élevé à 0,91. Globalement, je pense que le chiffre qui est important de retenir, c'est que le risque absolu de mortalité était de 32 % pour les patients aux soins intensifs avec des ARDS qui nécessitaient des supports ventilatoires élevés versus 40 % pour les groupes qui avaient le groupe standard ou placebo. On a vu qu'au niveau de ces études-là, il y avait des risques biais, des biais qui étaient très, très, très bas. Mais globalement, je pense que cette méta-analyse-là donne un très, très, très bon résumé, une très bonne notoriété à la cortisone qui en avait perdu dans les dernières années, comme je l'ai dit dans mon introduction. Alors, mes chers collègues, vous qui avez lu certaines études, qu'est-ce que cette méta-analyse-là est venue apporter, selon vous, à la littérature, au traitement ou dans vos pratiques?
Bien, je peux peut-être commencer là. Moi, j'ai lu l'étude CODEX. C'est une étude qui était ouverte aussi. Puis, j'ai aussi analysé beaucoup, là, comme on en a parlé au dernier podcast, de l'étude RECOVERY. Donc, je suis un peu comme l'experte là, de la DEX en COVID présentement. Donc, quand on regarde là, le graphique le plus parlant là, de la méta-analyse, c'est vraiment le graphique. Là. Donc, je vous invite à aller le consulter, là, la figure 2. On peut voir que c'est vraiment la DEX qui a le plus grand poids comme cortico là, parmi les trois qu'on a dans la méta-analyse. Donc, on a la DEX, il y a l'hydrocortisone puis le méthylprednisolone. On voit à droite, là, vous avez le poids. Donc, la DEX, il y a vraiment 76 % des résultats qui est relié à l'utilisation de la dexamétasone. Puis, effectivement, là, l'étude CODEX vient un peu appuyer les résultats de l'étude RECOVERY. Donc, il y a un bénéfice au niveau de la mortalité qui est un peu limite. Là, les chiffres qui étaient rapportés dans l'étude, c'était non statistiquement significatif pour la mortalité. Mais pour ce qui était de l'outcome primaire, qui était en fait le nombre de jours vivants sans nécessité de ventilation, on avait un résultat qui était statistiquement significatif. Donc, encore une fois, ça appuie l'usage des corticaux là, en COVID. Il faut savoir aussi que l'étude CODEX, c'était seulement des patients. Les patients qui étaient admis devaient être intubés et devaient avoir un ARDS quand même modéré à sévère, qui était défini comme un ratio PaO2 sur FiO2 qui était inférieur ou égal à 200 pendant 48 heures consécutives. Donc, on s'entend que c'était des patients qui étaient quand même assez malades là, pour l'étude CODEX. Bon, les autres choses aussi qui étaient quand même intéressantes pour cette étude-là, l'autre chose qui m'a vraiment frappée de cette étude-là, c'est qu'on utilisait des doses de DEX beaucoup plus élevées que dans l'étude RECOVERY. Donc, ils ont utilisé 20 mg intraveineux une fois par jour pendant 5 jours, puis ensuite, ils donnaient 10 mg intraveineux une fois par jour pendant 5 jours. Puis, ils comparaient seulement avec le traitement usuel. Là, il n'y avait pas l'utilisation de placebo. Puis, il faut savoir aussi que 35 % des sujets dans le groupe contrôle ont aussi reçu des corticaux. Puis on excluait beaucoup de patients qui avaient déjà reçu des corticos par hospite ou s'il y avait vraiment une indication franche de recevoir des corticos comme un choc sévère réfractaire. Donc, à ce moment-là, on peut comprendre aussi là, que les résultats pourraient être sous-estimés compte tenu qu'on excluait ces patients-là. Donc, c'est pas mal les trucs que j'avais retenus, plus particulièrement pour l'étude Codex. Là,
qui est venu un peu renforcer la méta-analyse, là, finalement. Là,
si c'est ça. Puis, vous avez la troisième étude sur la DEX dans la méta-analyse, c'est la DEXA-COVID. Mais comme vous voyez, là, le carré est tout petit, puis le poids est de 0,92. Il y avait très peu de patients d'inclus dans cette étude-là. On parle de 18 patients environ, là, donc c'est, ça ne vaut même pas la peine d'en parler.
Merci Ariane. Toi, Francis, là, quand tu as lu la méta-analyse à la lumière des études que tu as lues, je pense que toi, tu t'es concentré un petit peu sur CAPE, là, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que tu en fais, toi, de la méta-analyse que le JAMA a publiée récemment?
Donc, comme tu disais, Yann, en entrée de jeu, la méta-analyse est venue renforcer les trouvailles qui ont été publiées par Recovery, mais il y avait une certaine déclinaison dans la méta-analyse parce qu'on incluait d'autres sortes de corticothérapie, puis on avait quand même des odd ratios intéressants aussi avec d'autres molécules. Et on parlait de la méthylprednisolone avec un odd ratio de 0,91, ce qui est vraiment surprenant. C'est pas très bon au niveau de la méthylprednisolone, mais on avait seulement une étude qui venait inclure des sujets qui avaient reçu la méthylprednisolone, et c'est l'étude SARI avec seulement 40 patients. Fait que j'ai décidé de pas trop analyser cette analyse-là, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de sujets. Par contre, dans le bloc hydrocortisone, on avait trois études. Puis, dans ces trois études-là, il y en avait une qui sortait un peu plus du lot par sa structure et par sa puissance et par sa méthodologie. Donc, j'ai décidé de réviser CAPE COVID, qui est une étude française, randomisée multicentrique dans 9 unités de soins intensifs en France. Double aveugle, donc c'était la seule étude dans cette méta-analyse qui était double aveugle. Puis, elle était très bien construite parce qu'elle était calquée sur une étude qui était supposée d'analyser l'hydrocortisone pour les pneumonies acquises en communauté. C'était une étude qui s'appelait CAPE COD qui a finalement été adaptée pour le COVID parce que le COVID a commencé au moment où CAPE COD commençait à enrôler des patients. Puis, ce qui est intéressant avec cette étude-là, c'est qu'ils utilisaient l'hydrocortisone en perfusion à faible dose sur un protocole principalement là, sur 14 jours à dose décroissante. Certains patients qui étaient un peu moins malades avaient un protocole qui était donné sur 8 jours. Ils ont quand même trouvé des résultats intéressants. Dans le groupe, dans leur randomisation, il y avait 76 patients dans le groupe traitement. Il y avait 73 patients dans le groupe placebo. Puis le groupe placebo, ce qu'il recevait, c'était pas les soins usuels, c'était vraiment un placebo, c'était du sarin. Fait qu'on avait vraiment un comparatif franc entre de la cortico ou juste aucunement de la cortico. Puis, il enrôlait également des patients qui étaient très malades avec un RDS modéré à sévère, des patients adultes, 18 ans et plus. Puis, ils ont trouvé, ils n'étaient pas statistiquement significatif parce qu'ils ont dû terminer leur étude prématurément, étant donné que le comité d'éthique a déclaré que ce n'était pas éthique de continuer l'étude quand les données de recovery ont été publiées. Donc, pour avoir leur puissance et avoir des résultats statistiquement significatifs, ils devaient avoir 290 patients, mais ils ont réussi à en enrôler seulement 149. Mais quand même, ils ont trouvé qu'il y avait une diminution de mortalité chez les patients qui recevaient l'hydrocortisone. Donc, une mortalité de 14 % dans le groupe hydrocortisone et 27 % dans le groupe placebo, avec un p-value à 0,05, donc tout juste à la limite du non statistiquement significatif. Puis, on voyait aussi une diminution dans les objectifs secondaires du nombre de patients qui finissaient par être intubés. On parle de 50 % dans le groupe hydrocortisone, puis 75 % dans le groupe placebo. Quand on analyse un petit peu plus en détail le type de sujets qui ont enrôlé dans leur étude, c'était vraiment une clientèle qui représente bien nos patients en Amérique du Nord, là, des patients qui ont beaucoup de comorbidités comme MPOC, asthme, des patients immunosupprimés ou diabétiques. puis aussi avec des patients qui avaient des IMC un peu plus élevés, autour de 27-28. Donc, quand même, une bonne étude, malheureusement, pas assez de patients, mais une bonne représentativité, quand même des données puis des statistiques qui démontrent une tendance vers une possible amélioration au niveau de la mortalité puis au niveau du sevrage du support respiratoire, mais tout juste non statistiquement significatif. Donc, je trouvais que c'était une étude qui était quand même intéressante à incorporer dans les méta-analyses puis qui vient un peu renforcer la classe globale des cortisones chez les patients en ARDS qui sont porteurs de la COVID.
Oui, puis en plus, lorsqu'on regarde un peu plus le détail des patients, je pense qu'on en avait parlé avant les enregistrements, la CRP était un point un petit peu intéressant à aller réfléchir, c'est que quand on regardait la CRP à l'arrivée chez les patients du groupe cortisone, elle était à 154, alors que dans le groupe placebo, elle était à 185. Donc, c'est comme si les patients étaient légèrement moins inflammatoires à l'arrivée. Donc, ce qui va un peu aussi dans le sens que ça explique peut-être qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes et peut-être que si on avait eu des patients un peu plus inflammatoires, la cortisone elle serait venue venir donner un meilleur coup de main. Alors, comme on avait une limite au niveau de la statistique, la signification statistique, bien, je pense que le fait de savoir qu'on avait un patient un peu moins inflammatoire est un peu un point en faveur de la cortisone. Moi, c'est un petit peu ça qui m'a marqué à ce niveau-là. Puis l'autre chose que je me demandais aussi, c'était par rapport aux doses de cortisone. Je sais qu'on a eu une petite discussion là-dessus, là, comme je disais tout à l'heure, avant de faire notre enregistrement, mais j'étais persuadé que la cortisone à 200 mg par jour, l'hydrocortisone à 200 mg par jour, je pensais que c'était une dose qui était assez élevée. Alors, je sais qu'en discutant avec Ariane, notre pharmacienne, elle nous expliquait que finalement, une hydrocortisone à 50 Q6 ou à 200 par jour, c'est quand même pas une très, très haute dose, c'est quand même une basse dose de cortisone à ce niveau-là. Mais Ariane, voudrais-tu un petit peu développer là-dessus, s'il te plaît?
Mais c'est ça, quand on veut comparer l'effet... En fait, on veut comparer les doses de corticostéroïdes. On va souvent calculer selon l'équivalence d'activité glucocorticoïde. C'est ça. Un cortef 200 mg par jour équivaut à une prednisone 50. Donc, la prednisone, c'est souvent notre valeur de référence. Là. C'est plus facile de réfléchir comme en dose de prednisone. Et par exemple, un 200 mg de solimédrol, c'est équivalent à 250 mg de prednisone. Ça met plus en perspective les doses quand on regarde ça comme ça. Il ne faut pas juste se fier aux chiffres là, puis de penser que c'est un pour un.
D'accord, bon point. Toi, Mathieu, quand tu as lu la méta-analyse, qu'est-ce que tu en as fait comme réflexion?
Bien, c'est un peu comme Ariane et Francis ont dit, ça vient, je pense, supporter Recovery, bien que Recovery fait partie de la méta-analyse, comme on a dit, là, puis qui est probablement le poids prépondérant de cette méta-analyse-là. Mais ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est DEXA, Codex, Cape COVID, puis REMAP-CAP, sur l'étude que j'ai peut-être un petit peu plus décortiquée, ont tous été arrêtés prématurément suite à la publication de Recovery. Fait que est-ce qu'on aurait une puissance plus importante, un effet plus important si ces études-là avaient pu se terminer? Parce que bien qu'ils ont été arrêtés prématurément, puis qu'il faut quand même faire attention là, avec des études arrêtées prématurément. Il semble y avoir un signal vers un bénéfice des corticos qui vient supporter littéralement ce que Recovery vient de donner. Fait que moi, c'est ce que j'en tirais un peu. Là. C'était vraiment, on vient supporter Recovery. Et si on n'avait pas terminé ces études-là, peut-être qu'on aurait encore un bénéfice plus marqué. T'sais, si on regarde dans REMAP-CAP, qui est probablement l'étude qui a le plus de poids pour l'hydrocortisone, parce que dans le fond, c'est une étude qui, à la base, était prévue pour la pneumonie acquise en communauté, qui ont switché, qui ont changé pour intégrer le COVID, qui ont regardé un petit peu là, l'hydrocortisone à dose fixe pour 7 jours à 50 mg IVQ6. Ils ont regardé l'impact que ça avait sur un composite de soutien sans organes vivants. Effectivement, vraiment, c'est un composite de mortalité, de jours vivants sans assistance respiratoire ou cardiovasculaire, parce que dans le fond, c'était cette population-là qui était dans l'étude. C'était des gens COVID positifs qui venaient aux soins pour avoir un support ventilatoire ou hémodynamique. Fait que là, ce qui est intéressant, moi, de cette étude-là, c'est quand tu la regardes, que ce soit en dose fixe, comme je viens de dire, ou en dose choc dont, dans le fond, il permettait de donner la dose de 50 IVQ6, mais de l'ajuster en fonction de la réponse au choc du patient. Ce qu'on se rend compte, c'est que la dose fixe semble avoir un odds ratio plus favorable sur la diminution du temps de support respiratoire, du temps de support hémodynamique. Fait que moi, ce que je tirais de cette étude-là un peu, c'est que il y a une durée de traitement qui devrait être bonne, qui devrait être un minimum, si on veut, que si on utilise des doses de choc, puis que le patient sort rapidement de son choc, il est peut-être quand même encore assez inflammatoire de son COVID, fait qu'il n'y aura peut-être pas le bénéfice complet d'une dose fixe de 7 jours, par exemple. C'est ce que REMAPCAP nous disait, là, parce qu'on a des odds ratio de 1,42 versus 1,2 du groupe fixe versus le groupe choc. Fait que ce que je trouvais intéressant, c'est que ça vient comme renforcer un petit peu l'hydrocortisone, comme quoi que, bien que c'est un cortico qui est pas mal moins glucocorticoïde, qui est assez balancé, minéralo-gluco-cortico, il semble quand même y avoir un bénéfice avec ce cortisone-là, bien qu'elle n'ait peut-être le bénéfice est peut-être un petit peu moins bon qu'avec la dexamétasone qui est très, très glucocorticoïde. Mais REMAPCAP, même avec Cape COVID, je trouvais que ça venait nous rassurer sur le fait qu'on pouvait, si on n'a plus de dexamétasone, parce que ça va tomber en rupture d'approvisionnement, c'est une question de temps, puis qu'il nous reste juste l'hydrocortisone, ben peut-être qu'il y a quand même un bénéfice là, à l'utiliser. Donc, ça vient nous rassurer, là, en tout cas.
Nos patients ne souffriront pas, là, finalement, du fait qu'on pourrait avoir un back-order de dexamétasone.
Exactement.
Pas mal ça.
Oui, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, les autres éléments que la méta-analyse semblait m'apporter, c'est que peut-être qu'au niveau de la différence des corticostéroïdes, il y a peut-être un effet un peu plus bénéfique d'aller vers la DEXA ou à la limite peut-être la méthylpred si on extrapole que l'effet bénéfique des corticos est peut-être plus relié à l'effet anti-inflammatoire. Donc, on devrait favoriser peut-être une molécule qui est plus glucocorticoïde et moins minéralocorticoïdes comme l'hydrocortisone, mais encore là, c'est vraiment une hypothèse. Quoique, c'est ça, peut-être des patients avec des chocs septiques concomitants peuvent bénéficier de l'hydrocortisone. Là, tu pourras me relancer, Mathieu. Mais le dernier petit détail que je voudrais dire, la méthylprène, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas rien statuer avec l'étude stéroïde SARI, là, parce qu'on parle d'environ comme 40 sujets, là. Donc, finalement, on n'a pas vraiment de données, je pense, pour l'instant avec cette molécule-là, mais bon, on peut extrapoler qu'il y a aussi un bénéfice, là, un effet de classe, là, si on veut.
Oui, je suis d'accord avec toi, Ariane. Puis, effectivement, là, la méthylprède, je pense qu'elle est sous-représentée, si on veut. Puis, c'est un peu pour ça aussi, la DEXA sort vraiment très fort. Elle n'est pas sous-représentée, mais c'est celle qui a le plus de données. C'est celle aussi qui a le plus de pouvoir glucocorticoïde. Donc, probablement que c'est elle qui a le plus d'effet vu qu'elle est plus glucocorticoïde. Là, tu sais, on le sait tout, là, il n'y a quasiment pas plus glucocorticoïde que la DEXA. Fait que si tu as le choix et que tu peux grader, je pense que favoriser la dexamétasone, après ça la méthylpred, si tu n'as plus de DEXA ou tu as des choix à faire parce qu'on sait tous les ruptures d'inventaire. Qu'est-ce que ça amène. Puis que l'hydrocortisone, ben moi, ça me rassure parce que même si tu as un ratio, on va dire quasiment 1:1 gluco-minéralo, il y a quand même des bonnes données. Fait que ce que ça me dit, c'est que oui, c'est un effet de classe. Aller chercher glucocorticoïde le plus possible. Mais si on n'en a pas, puis on se ramasse juste avec l'hydrocortisone, je pense qu'il y a quand même un bénéfice en donner.
Qui est à donner des plus grosses doses? En équivalence d'activité glucocorticoïde. Il faut juste faire attention, les cas d'ARDS, ça peut, je pense, avoir une rétention hydrosodique qui peut être délétère.
C'est un bon point, Ariane, surtout dans le contexte des insuffisants rénales. Puis on en a beaucoup d'insuffisants rénales en termes de COVID. Donc, ils vont peut-être nécessiter de la SIX ou un peu plus de thérapie de remplacement rénal.
Bon point.
Francis?
Je suis d'accord avec ce qu'Ariane a mentionné concernant l'étude de SARI. C'est un peu décevant qu'elle ait été interrompue prématurément parce que le solimédrol, c'est la molécule souvent qui nous vient le premier à l'esprit là, quand on a affaire à des patients en ARDS ou en choc réfractaire. Donc, ça aurait été intéressant de voir avec plus de données au niveau de cette étude-là si on voyait une différence bénéfique chez les patients. Mais comme Mathieu mentionnait tantôt, les études qui ont été incluses dans la méta-analyse viennent renforcer recovery. Puis, le fait que les chercheurs ont dû interrompre leur étude, ça démontre qu'ils accordaient beaucoup de valeur aux données de recovery pour se dire que ce n'était pas éthique de continuer leur propre étude. Ça fait en sorte que recovery est très surreprésenté. Ça leur aurait été intéressant qu'ils puissent continuer pour voir est-ce que la DEXA, c'est vraiment la meilleure molécule? Est-ce que c'est la dose de 6 mg qu'il faut retenir? Est-ce qu'on devrait en donner plus, en donner moins? Les concepts de perfusion versus dose intermittente, qu'on ne saura pas encore qu'est-ce qui est vraiment le mieux. Tout ça aurait été intéressant si on avait pu avoir plus de données avec les autres études. Mais bon, recovery était tellement grosse et puissante qu'on a dû interrompre les autres études.
C'est un bon point, parce que la manière de le donner en perfusion ou en dose Q6R ou DIE selon la DEXA, c'est bien parce qu'on sait que l'on ne pourra plus faire d'études en disant on veut un placebo. C'est presque impossible à faire. Toutes les études ont été arrêtées. Mais ça va être une bonne manière de faire des prochaines études en disant les modes d'administration, le type de dose, parce que la méta-analyse, ce que ça nous montrait, c'est que c'était imprécis à savoir est-ce qu'il faut donner des petites doses en lien avec la mortalité, des hautes doses en lien avec la mortalité. C'était plutôt imprécis, puis on ne le savait pas. Donc, je pense que ça, dans des études subséquentes, ça va être un bon point. Est-ce que je t'ai interrompu? Tu peux continuer.
Oui, tu as bien résumé mon idée. Et l'autre chose que j'ai, quand on décortique un peu plus la méta-analyse, les odd ratios sont pratiquement améliorés dans toutes les catégories, dans tous les sous-groupes, sauf dans un, c'est chez les patients qui recevaient des médicaments vasopresseurs. On a un odd ratio à 1 point. Ouais, ça m'a vraiment marqué parce que, encore une fois, je trouve ça contre-intuitif. Est-ce que c'est parce que ces patients-là étaient tout simplement plus malades, puis finalement, ils étaient à la fin de leur cascade et de leur dysfonction multi-organique, puis ils n'étaient pas... on ne pouvait pas les ramener, dans une bonne physiologie, si on veut.
Ou bien ils recevaient des médicaments trop glucocorticoïdes pour l'instabilité hémodynamique, la DEX ou le Medrol. Parce que ce qu'ils disaient dans l'analyse de sous-groupe, c'est l'association entre les corticaux et la faible mortalité était plus forte chez les patientes qui ne recevaient pas de vasopresseurs. Il y en avait quand même une, là, mais était plus forte chez ceux qui ne recevaient pas ça. Alors, ça serait bien de voir, est-ce que ceux qui ont reçu l'hydrocortisone avec l'effet minéralocorticoïde, est-ce que ça vient un peu contrebalancer ça? Mais il n'en parlait pas. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, mais moi, je ne l'ai pas vu, mais ça m'a vraiment marqué parce que ce que j'ai comme expérience à travers les patients qu'on a eus, puis Francis, on travaille ensemble, j'ai pas vu beaucoup d'instabilité hémodynamique en COVID. Pas tant que ça. Il n'y en avait pas tant que ça. Je m'aurais attendu à bien plus d'instabilité puis de choc, puis on n'en avait pas tant que ça.
L'autre question qui va venir, je pense, c'est le timing. C'est quand est-ce qu'on doit les débuter, les corticaux? C'est peut-être ça aussi. Est-ce qu'on a attendu, dans le groupe vasopressor, on a-tu trop attendu pour les débuter? On sait qu'il y a quelque chose avec le timing. On l'a vu dans l'étude Recovery. Les résultats sont à l'opposé. Donc, qu'on les débute trop tôt ou il y a comme probablement une fenêtre où il faut les donner. Puis ça aussi, ça va être à éclaircir.
Oui, puis je ne sais pas si ça va avec le timing, Ariane, mais ce qu'on sait, c'est que les études qui ont été données pour l'influenza avaient une augmentation de mortalité lorsqu'on donnait de la cortisone. Est-ce qu'on commençait beaucoup trop tôt au moment de la réplication virale? Et c'est pour ça qu'il y a eu plus de décès. Est-ce qu'il y a moins de réactions inflammatoires avec l'influenza? Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu autant d'influenza causer autant d'ARDS dans les dernières années. Mais bon, ce timing-là est hautement important. On a seulement la CRP pour l'instant. Certains hôpitaux, certains pays ont les interleukines 6 pour évaluer le cytokine storm. On n'a pas cette chance-là, nous, au Québec et au Canada. Je pense autant dans le timing que dans le type de maladie, parce qu'on n'a pas vu aussi, si je me rappelle bien, là, il disait pour le SRAS en 2002, puis le MERS qui a touché les pays arabes au début des années 2010, Je pense que la cortisone n'avait pas été très, très, très bénéfique non plus à ce moment-là. Mais est-ce que ça a été donné trop vite ou non? C'est sûr que si on donne la cortisone en pleine réplication virale, je ne suis pas certain que c'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on voit qu'après 7 jours, on a une bonne efficacité. C'est un point qu'on avait touché, Ariane, lors de notre podcast sur le recovery trial.
Puis pratico-pratique, depuis l'apparition du recovery, avez-vous changé vos pratiques, vous, de votre côté? Est-ce que vous voyez comment vous avez appliqué les résultats de cette étude-là?
Francis?
Tu pourras plus en parler que moi parce que tu en as vu plus, mais quand Recovery a sorti en juin, on était sur la fin de notre grosse vague, donc on n'a pas eu beaucoup d'entrées de nouveaux COVID pour vraiment partir l'Adexa au bon moment dans la cascade inflammatoire. Mais avec la puissance de l'étude, on a commencé à en donner sur notre deuxième vague, les patients qui arrivent. Mais on n'a pas encore assez de recul, Yann, à moins que toi, tu en as vu plus, là, mais je pense qu'on n'a pas encore assez de recul parce qu'ils commencent à arriver, nos patients, donc on ne sait pas vraiment si ça va faire encore une grosse différence.
Oui, exactement. Je sais que depuis que Recovery est sorti, si je me rappelle bien, on a eu 4 patients seulement aux soins intensifs sur la 60aine qu'on a eu lors de la première vague. Là-dessus, il y a j'ai eu deux de ces 4 patients-là que j'ai débuté la cortisone, puis je me suis fié totalement à Recovery. Donc, je me suis assuré qu'on était au moins à 7 jours de début de l'apparition des symptômes pour être sûr que la période de réplication virale était un peu derrière nous et que les patients avaient besoin d'oxygène. Alors, sur les 4 qui ont eu de la cortisone, aucun n'a été intubé, aucun n'a même eu besoin de BiPAP. L'aide respiratoire qu'on a eu le plus, c'était les canules de high flow, là, les OptiFlow, comme on appelle. Mais 4, ça veut rien dire. Peut-être qu'on est tombé sur 4 qui avaient une faible maladie. Peut-être même que le COVID est un petit peu plus faible chez ces patients-là qui avaient moins de réplication virale. Je ne sais pas, donc je pense que je ne peux pas me prononcer à ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question, Ariane, oui, absolument. J'ai débuté la cortisone 6 mg IV DIE pour 7 à 10 jours d'emblée chez les patients qui avaient un COVID suspecté. Francis?
Une chose qui va être intéressante aussi à voir avec la cortisone, c'est s'ils font un suivi de post-congé des soins intensifs pour voir s'il y a plus d'incidence de fibrose, de cicatrice post-COVID chez les patients qui ont reçu la corticothérapie. Parce que j'ai l'impression qu'on va peut-être voir des patients avec des insuffisances respiratoires chroniques ou des maladies pulmonaires chroniques post-COVID. Puis ça va être intéressant de voir s'il n'y a pas des suivis dans les années qui vont, dans les mois et dans les années qui vont suivre pour voir peut-être l'effet de la cortisone, pas juste au court terme, mais également au long terme. Parce que souvent, aux soins intensifs, on focus beaucoup sur la durée moyenne des séjours puis la mortalité. Mais il y a aussi les séquelles post-congé des soins intensifs puis post-ARDS.
Oui, en fait, ce que tu parles, c'est ce qu'on appelle communément les baby lungs. Là. Est-ce qu'il va y avoir moins de baby lungs, là, donc de poumons exactement qui restent de ventilation après une fibrose qui s'est installée pour le restant des jours des patients? Moi, ce que j'ai trouvé aussi dans la méta-analyse, là, pour terminer avec ça, c'est que, bizarrement, le fait que l'étude était prospective, ça, c'est les auteurs qui l'ont signalé. En général, une étude prospective, c'est toujours mieux qu'une rétrospective, là, dans les faits. Mais ils se sont demandé s'il n'y a pas certains chercheurs que, comme elle était prospective, voyant leurs résultats un peu moins bons, se sont retirés de la possibilité de faire partie de la méta-analyse. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et je pense qu'il va falloir encore un peu plus d'études. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à étudier à venir au niveau de la RDS et des problèmes de fibrose pulmonaire ou d'atteinte pulmonaire sévère causée chez nos patients. Et même aussi pour voir au niveau de toutes les atteintes de micro-embolie que le COVID peut donner, par exemple, comme les micro-embolies cérébraux ou les atteintes intestinales ou même les atteintes rénales, voir si on va avoir une amélioration significative à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on est juste au début. C'est extrêmement agréable de savoir que là, enfin, on a un traitement. La question aussi va de savoir, c'est comment le COVID va évoluer dans l'histoire de la planète, là. Est-ce que Est-ce que, tu sais, je parlais avec un de mes collègues des soins intensifs là, qui n'est pas avec nous ce soir, puis il disait de façon imagée que le but de tout virus, c'est de devenir un rhume. Parce qu'en devenant un rhume, lorsqu'il est moins sévère, ben il peut mieux se multiplier et survivre tout le temps et revenir après chaque saison. Est-ce que tous les cas de COVID les plus sévères, on les a eus et ils ont été confinés, isolés et qui sont décédés, puis ce qui reste de mutation au niveau du COVID fait que la maladie, elle est plus faible, elle est plus légère et elle se propage mieux vu que les porteurs restent asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Donc ça, on va le voir, puis est-ce que peut-être que tout ce qu'on est en train de discuter là va pas avoir lieu parce qu'au fond, éventuellement, ça va devenir un genre de rhume, si on veut. On espère, d'une certaine manière, là. Mais donc, en attendant qu'on ait ce genre de outcome-là, si ce genre d'outcome-là arrive, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études évaluées, par exemple, tous les rebonds de maladies inflammatoires après l'arrêt de la cortisone. Qu'est-ce qu'on va guider? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va pouvoir doser les interleukines 6? Est-ce qu'on va se fier à la CRP? Tout ce genre d'études-là. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment un sujet, un domaine d'étude facile, pas facile, mais très intéressant et facile à utiliser, facile à donner, comme on disait tout à l'heure. L'autre chose aussi que je crois qui va être bénéfique, ben, c'est la vaccination va probablement aider à réduire le nombre de cas. Puis, à un moment donné, on va être capable de bien circonscrire ça. Puis, si on a quelques armes thérapeutiques à notre disposition, on va être capable de venir à bout de ce virus-là qui est venu un peu chambouler toutes nos vies. Alors, moi, c'est ce que j'avais à dire sur le COVID et sur toutes ces dernières méta-analyses-là. J'espère que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. On est sur toutes les plateformes, comme vous savez, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Bye.
Salut.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.